Condorcet, vie de Monsieur Turgot, fichier 2. Monsieur Turgot comptait au nombre de ses amis Monsieur de Gournay, longtemps négociant et devenu intendant du commerce. L'expérience et les réflexions de Monsieur de Gournay l'avaient éclairé sur les principes alors très peu connus de l'administration du commerce. Et il avait appris, ou plutôt il avait vu, que ces prohibitions de marchandises étrangères, ces défenses d'exporter les productions brutes du territoire, qui ont pour prétexte d'encourager l'industrie nationale, ne font qu'en déranger le cours naturel. Que la protection accordée à un genre particulier de commerce nuit au commerce en général. Que tout privilège pour acheter, pour vendre, pour manufacturer, loin d'animer l'industrie, la change en esprit d'intrigue dans les privilégiés et l'étouffe dans les autres. Que ces règlements, dont l'objet public est avoué est d'empêcher le peuple d'éprouver la disette des denrées nécessaires, de les lui procurer à un moindre prix, enfin, d'assurer la bonté de ces denrées ou celle des ouvrages des manufactures, rendent à la fois l'abondance de ces denrées moindres et plus incertaines en augmente le prix et presque toujours en diminue la qualité ou la perfection. Qu'en un mot, toutes ces précautions de la timidité et de l'ignorance, toutes ces lois, nées d'un esprit de machiavélisme qui s'est introduit dans la législation du commerce comme dans les entreprises de la politique, produisent des gênes, des vexations, des dépenses réelles, qui les rendrait nuisibles, quand même elles produiraient le bien qu'on en attend au lieu de produire l'effet opposé. Monsieur Turgot retira une très grande utilité de ses conférences avec Monsieur de Gournay. Il se rendit propre toutes les vérités qui étaient le fruit de la longue expérience de ce citoyen éclairé et vertueux. Et déjà convaincu qu'une liberté entière et absolue était la seule loi de commerce utile et même juste, il apprit de M. de Gournay à connaître dans les détails tous les avantages de cette liberté, tous les inconvénients des prohibitions, à résoudre les objections produites par l'ignorance des principes qui dirigent les spéculations de commerce et celles qui ont leur source dans les préjugés des négociants eux-mêmes, ou plutôt dans l'intérêt des négociants accrédités. Car eux seuls aiment les règlements, par la raison que ces règlements mettent les opérations nouvelles ou importantes dans la dépendance du gouvernement et écartent par conséquent la concurrence des négociants trop peu riches pour avoir des protecteurs. Monsieur de Gournay mourut en 1759 et Monsieur Turgot, s'intéressant à la gloire de son ami qu'il croyait lié à l'intérêt public, rassembla des matériaux pour son éloge. Il y exposait, avec clarté, avec précision, les principes de M. de Gournay qui étaient devenus les siens. Et cet éloge, que M. Turgot regardait comme une simple esquisse, renferme l'exposition la plus simple et la plus complète des vrais principes qui prouvent l'utilité de la liberté d'industrie et de commerce, l'injustice de toute restriction, et donne en même temps un modèle de ce que devraient être ces hommages rendus aux morts, mais dont il faut que l'instruction des vivants soit le premier objet. M. Turgot était destiné à devenir intendant, et quelque soin qu'il eût pris pour rassembler toutes les connaissances dans lesquelles il pouvait entrevoir l'ombre même d'une utilité éloignée, il sentait qu'il n'avait pu acquérir d'expérience et il ne se croyait pas permis d'achever son instruction aux dépens de la province qui serait confiée à ses soins. Il demanda donc à Monsieur de la Michaudière, dont il connaissait la probité et l'amour du bien public, la permission de l'accompagner dans les tournées qu'il faisait dans son intendance, de l'aider dans son travail, et d'acquérir sous ses yeux les connaissances pratiques qui lui manquaient, que la théorie ne pouvait lui donner, mais dont elle facilite l'acquisition, et qu'elle seule peut rendre sûre est vraiment utile. En 1761, il fut nommé à l'intendance de Limoges. L'autorité directe d'un intendant a peu d'étendue. Les ordres de détail pour l'exécution des ordres généraux qu'il reçoit du ministère, la décision provisoire de quelques affaires, le jugement de quelques procès de finance ou de commerce dont l'appel est porté au Conseil. Telles sont, pour ainsi dire, toutes les fonctions d'un intendant. Mais il est l'homme du gouvernement. Il en possède la confiance. Le gouvernement ne voit que par ses yeux, n'agit que par lui. C'est sur les comptes qu'il a rendus, sur les informations qu'il a prises, sur les mémoires qu'il a envoyées, que les ministres décident toutes les affaires. Et cela, dans un pays où le gouvernement réunit tous les pouvoirs, où une législation défectueuse dans toutes ses parties l'oblige de peser sur tout et d'agir sans cesse. Peut-être serait-il à désirer que l'autorité publique de ces magistrats fût plus grande et que leur influence secrète fût moins puissante. Alors, ils pourraient répondre de leurs délits, de leurs fautes, au lieu que, dans l'état actuel, presque toujours couverts de l'autorité suprême, les réclamations élevées contre eux semblent attaquer le gouvernement. Et il lui est souvent très difficile de soutenir un intendant sans exercer un despotisme tyrannique ou de le condamner sans introduire une anarchie dangereuse. Lorsque M. Turgot fut nommé à l'intendance de Limoges, M. de Voltaire lui manda « Un de vos confrères vient de m'écrire qu'un intendant n'est propre qu'à faire du mal. J'espère que vous prouverez qu'il peut faire beaucoup de bien. » La disposition générale des esprits était alors favorable à ces vues de bienfaisance. La fureur guerrière et religieuse qui, pendant 1400 ans, avait tourmenté l'Europe, parut commencer à se calmer vers la fin du siècle dernier, et une émulation pour le commerce et pour les arts, pour les richesses et pour la gloire de l'esprit s'empara de toutes les nations. Et les peuples en furent plus tranquilles. Mais comme on commençait à les compter pour quelque chose, et qu'on daignait même les écouter quelquefois, on s'aperçut qu'ils étaient encore beaucoup trop malheureux. Le temps de fonder leur bonheur sur les maximes invariables d'une politique sage et éclairée n'était pas arrivé. Mais les encouragements pour l'agriculture et les soins d'humanité pour le peuple étaient devenus le premier objet de ceux des hommes en place qui avaient quelque vertu ou quelque amour pour la renommée. M. Turgot profita de ces dispositions pour donner de l'activité à la Société d'agriculture de Limoges et pour en diriger les travaux vers un but utile, pour faire instruire dans des cours publics les sages-femmes répandues dans les campagnes, pour assurer au peuple dans les épidémies les soins de médecins éclairés, pour établir des ateliers de charité, la seule espèce d'aumône qui n'encourage point l'oisiveté et qui procure à la fois des secours aux pauvres et au public des travaux utiles. Il introduisit dans sa généralité la culture des pommes de terre, ressource précieuse pour le pauvre. Le peuple la dédaigna d'abord comme une nourriture au-dessous de la dignité de l'espèce humaine et ne consentit à l'adopter qu'après que l'intendant en eût fait servir chez lui, on eût donné le goût aux premières classes de citoyens et qu'il ne fût plus permis d'en regarder l'usage comme le signe humiliant du dernier degré de la misère. Mais M. Turgot, en faisant avec autant d'activité, de zèle et de principes plus sûrs, le bien que d'autres intendants pouvaient faire comme lui, s'occupait de projets plus grands et plus dignes de son courage et de ses lumières. La répartition des impôts, la construction des chemins, les milices, les soins pour les subsistances, la protection du commerce furent les principaux objets de ses travaux pendant les 13 années que la province du Limousin fut confiée à ses soins. Dans toutes les généralités assujetties à la taille, L'idée de faire un cadastre est une des premières qui se présentent à un administrateur admis de la justice. Mais la méthode de faire cette opération avec exactitude et avec équité est à peine connue de nos jours. Et celui qui avait été exécuté en Limousin par M. de Tourny était devenu la source de désordres aussi grands que ceux qui avaient déterminé à l'entreprendre. La plupart des terres de cette province sont exploitées par des métayers, auxquels le propriétaire fournit le logement, la nourriture pour une partie de l'année, la semence, les outils aratoires, les bestiaux nécessaires à l'exploitation. La récolte faite, le propriétaire en prend la moitié. Non seulement il était très difficile de distinguer dans cette forme de culture la partie qui devait être regardée comme le produit net de la terre et celle qui était destinée à payer les frais de culture ou l'intérêt des avances faites en bestiaux et en instruments. Mais on ignorait absolument, du temps de M. de Tourny, que cette partie, la seule dont le propriétaire puisse disposer sans nuire à la culture, la seule qu'on puisse regarder comme formant le produit annuel, est aussi la seule qu'on puisse assujettir à l'impôt qui doit y être proportionné. La valeur des terres n'avait donc pu être estimée d'après aucun principe certain, et les travaux de M. Turgot pour réparer ces désordres, pour délivrer enfin l'agriculture d'un impôt distribué avec inexactitude, et dont même une partie tombait directement sur les bestiaux employés au labourage, sont le premier exemple d'un cadastre formé sur des principes vrais, par une méthode exacte et conforme à la justice. À ce bienfait, M. Turgot en ajouta un autre. La collecte de l'impôt était une charge de communauté également onéreuse, et à celui qui était forcé de la remplir, et à la communauté qui répondait des désordres causés par l'incapacité ou la mauvaise conduite de son collecteur. M. Turgot en fit un emploi que la communauté confiait à un homme solvable, d'une conduite connue et qui s'en chargeait volontairement pour un droit très modique. Le soin d'affranchir le Limousin du fardeau des corvées était plus cher encore au cœur de M. Turgot. Des hommes qui n'ont que leur salaire pour vivre, condamnés à travailler sans salaire. Des familles qui ne subsistent que par le travail de leur chef, dévoués à la faim et à la misère. Les animaux nécessaires au labourage enlevés à leurs travaux, sans égard aux besoins particuliers des propriétaires, et souvent à ceux de toute la contrée. Enfin, la forme absolue des ordres, la dureté des commandements, la rigueur des amendes et des exécutions, unissant la désolation à la misère et l'humiliation au malheur. Tel est le tableau des corvées. Et, si on y ajoute que les chemins étaient faits à regret, et par des hommes auxquels l'art très peu compliqué qu'exige leur construction était absolument étranger, que sous prétexte de forcer le peuple à un travail plus suivi, on lui marquait ses ateliers à plusieurs lieues de son habitation, que les reconstructions fréquentes de chemins, ou mal dirigés, ou faits avec de mauvais matériaux, étaient les suites nécessaires d'un système où l'on se croyait permis de prodiguer le travail parce qu'il ne coûtait rien au trésor royal et où l'ingénieur avait la facilité funeste de couvrir ses fautes aux dépens des sueurs et du sang des misérables, alors qu'on ne pourra s'empêcher de voir dans la corvée une des servitudes les plus cruelles et un des impôts les plus onéreux auxquels un peuple puisse être condamné. Cet impôt portait d'ailleurs directement sur le pauvre, puisque l'on avait adopté le principe d'exiger le travail en nature, on n'avait pu y assujettir que ceux qui pouvaient travailler. Et il était arrivé qu'un impôt nouveau, pour lequel aucun usage ancien, aucun privilège ne pouvait réclamer d'exemption, était devenu, par sa nature même, un de ceux pour lesquels les exemptions étaient le plus étendues. M. Turgot proposa aux communautés voisines de grandes routes pour faire exécuter à prix d'argent les travaux auxquels elles pouvaient être assujetties. Elle levait la somme à laquelle montait l'adjudication du chemin, proportionnellement à l'imposition de leur taille. Mais elle recevait une diminution d'imposition égale à la somme avancée. Diminution qui était ensuite répartie sur toutes les paroisses, comme celle qu'on est obligé d'accorder pour des pertes accidentelles. L'entretien des routes se faisait de même par de petites adjudications partielles. Cet entretien journalier coûtait beaucoup moins et prévenait bien plus sûrement la dégradation des chemins que des corvées qui ne peuvent se faire que deux fois l'année tout au plus et dont les travaux ne peuvent être exécutés avec la même intelligence. La première construction était à la fois et plus économique et plus solide. Le magistrat avait éclairé les ingénieurs et les entrepreneurs et il avait perfectionné la méthode de construire. Ainsi, tout ce que les corvées ont d'odieux, tout ce qui annonce la contrainte et la servitude personnelle, tout ce qui porte dans le sein du peuple la faim, le désespoir et la mort avait disparu. Il ne restait que la distribution injuste de l'impôt. Mais il n'était pas au pouvoir d'un intendant de la changer. Ce n'était pas même ce pouvoir qui avait produit la destruction de la corvée. C'était l'autorité de la raison, la confiance qu'inspire la vertu. Les peuples, qu'une expérience malheureuse a trop instruits à se défier de ceux qui les commandent, qui ont vu si souvent violer des promesses solennelles, couvrir du voile de lutter publique des vexations cruelles et faire servir le bien qu'on veut leur faire de prétexte au mal qu'on leur fait, les peuples, dont le concours était cependant nécessaire au succès de cette opération, parurent d'abord n'y consentir qu'avec crainte. Mais la conduite de M. Turgot, constamment dirigée par la raison, la justice et l'humanité, triompha bientôt de leur défiance. Et ce triomphe fut un des plus difficiles et des plus doux que jamais la vertu ait obtenu. Pour éclairer les peuples sur ses intentions et sur leurs vrais intérêts, il s'adressait aux curés. Les lettres qu'il leur écrivait, où il entrait dans les détails les plus minutieux, où il ne négligeait rien pour se rendre intelligible aux habitants des campagnes, pour parler à leur raison, ou plutôt pour leur en créer une, ces lettres subsistent. Et quelle idée ne donne-t-elle pas de la grandeur et de la bonté de son âme? Quand on songe que celui qui employait le temps le plus précieux de sa vie à écrire, à répéter des choses si familières et si simples, était ce même homme qui, entraîné par un penchant irrésistible, avait pénétré les abîmes de la métaphysique, étudié toutes les sciences et essayé d'en sonder toutes les profondeurs, qui enfin, dans ce temps-là même, achevait d'embrasser l'ensemble et l'étendue de toutes les sciences politiques dans les systèmes le plus suivi et le plus vaste que jamais l'esprit humain ait conçu. La milice était un autre fléau des campagnes. C'est un phénomène assez singulier que l'on ait pu parvenir à rendre l'emploi de soldats odieux et même avilissant chez un peuple naturellement actif et courageux. Mais le milicien n'avait pas le mérite d'un dévouement volontaire. L'incertitude de son sort l'empêchait de trouver des emplois avantageux. Confondu par son habillement avec le peuple, trop peu exercé pour être comparé au rang des soldats, il avait perdu sa liberté, sans en être dédommagé, ni par une substance assurée, ni par l'opinion. On s'était imaginé que la milice ne serait pas un impôt. Si on défendait aux communautés de former, en faveur des miliciens, une contribution volontaire, contribution dont un mouvement naturel d'humanité et de justice avait inspiré l'idée. M. Turgot sentait combien il est injuste de forcer un homme à embrasser malgré lui un état périlleux, sans daigner même lui payer le prix de sa liberté. Et combien, dans nos constitutions politiques actuelles, la manière dont les travaux sont distribués parmi le peuple, la nature de nos guerres, la forme de nos armées et les principes de notre art militaire rendent inapplicable aux nations modernes la maxime des anciens peuples, qui appelait tous les citoyens à la défense de la patrie. Mais si M. Turgot ne pouvait détruire le mal en lui-même, il voulut du moins arrêter les désordres particuliers à sa province. Dans un pays de montagne et où les habitations sont dispersées, le désir de se soustraire à la milice produisait d'autant plus de fuyards que l'espérance d'échapper était mieux fondée. La loi, qui déclarait les fuyards miliciens, enflammait le désir de les arrêter. Chaque communauté était intéressée à augmenter le nombre de ses membres soumis au tirage. Chaque famille regardait l'exemption réclamée par une autre comme une augmentation pour elle de ce risque si terrible dans l'opinion. Et l'on voyait, au moment des tirages, les communautés poursuivre à main armée les fuyards répandus dans les bois et se disputer avec violence les hommes que chacune prétendait lui appartenir. Les travaux étaient suspendus. Ils s'élevaient entre les familles, entre les paroisses, de ces haines que le défaut de distraction et la présence continuelle de l'objet rend irréconciliable. Quelquefois, le sang coulait et l'on combattait avec courage à qui serait exempt d'en avoir. M. Turgot arrêta ce désordre en obligeant les communautés de laisser à la puissance publique le soin de faire exécuter la loi et en veillant à ce qu'elle fût exécutée avec cette justice impartiale qui inspire la confiance et fait pardonner la rigueur. Il coupa la source du mal en permettant qu'une contribution payée par chaque communauté, mais toujours libre et réglée par elle seule, rendit volontaire l'engagement du milicien. Cette méthode d'avoir des soldats est en même temps la plus juste, la plus noble, la plus économique, la plus sûre, la plus propre à former de bonnes troupes. Et elle ne peut manquer d'avoir un jour la préférence sur toutes celles que le mépris pour les hommes et le respect pour l'usage ont fait adopter ou conserver. Le Limousin éprouva pendant l'administration de M. Turgot 2 années consécutives de disette. Personne n'était plus convaincu que la liberté la plus entière, la sûreté des magasins et des spéculations de commerce sont le seul moyen de prévenir les disettes et de les réparer. Partout, la disette, en élevant le prix, augmente l'intérêt de porter la denrée où elle manque. Mais les lois de police, les ventes forcées, les taxations ne font qu'opposer des barrières à ce mouvement naturel et enlever cette ressource aux citoyens. Au mal qu'elles font par elles-mêmes se joint celui d'exposer les commerçants aux vexations de subalternes et à la violence du peuple, dont l'inquiétude et la terreur sont excitées ou nourries par le spectacle d'une législation inquiète et turbulente. Il impute le mal qu'il souffre aux marchands qui viennent à son secours, parce qu'il les regarde comme les agents du gouvernement, ou qu'il les voit l'objet de la défiance des magistrats. Il impute ces maux à ses chefs, parce que la manière dont ils agissent annonce qu'ils croient eux-mêmes avoir le pouvoir de les réparer. M. Turgot savait également que ces précautions fatales dans les temps de disette ont l'effet plus général, plus durable et non moins funeste d'empêcher l'établissement d'un commerce de grains régulier, et par là, de rendre la subsistance du peuple à jamais précaire. Aussi, ne songea-t-il, dans ces temps malheureux, qu'à donner à la liberté du commerce des subsistances toute l'étendue qu'il était en son pouvoir de lui rendre, évitant même de le décourager par des approvisionnements particuliers, n'employant la force publique que pour le défendre contre les préjugés du peuple. Et il eut la consolation de voir ce commerce abandonné à lui-même pour voir à la subsistance publique, malgré les obstacles que la situation de la province apportait à ses opérations. Mais la liberté n'était pas entière. L'usage de taxer le pain était établi dans les villes. M. Turgot vit que les boulangers, possesseurs d'un privilège exclusif et sujet à la taxe, en profitaient pour porter le pain au-delà de son prix naturel comparé à celui du blé. Il suspendit l'usage de leur privilège en leur laissant la liberté de vendre au prix qu'ils voudraient. Et il vit bientôt ce prix baisser et les communautés des campagnes apporter à la ville, même de la distance de 5 lieues, un pain fait librement et par conséquent à meilleur marché. Cependant, si dans les temps de disette, le gouvernement ne doit au peuple que la liberté et la sûreté du commerce, il doit des secours aux pauvres. Mais il faut que ces secours soient le prix du travail. La vertu bien connue de M. Turgot fut alors le salut des malheureux. Comme il n'avait jamais rien demandé pour lui-même, il obtint aisément ce qu'il demandait pour sa province. Et le ministre ne pouvait pas refuser de croire ses secours nécessaires quand il apprenait par la voie publique que l'intendant ne les sollicitait qu'après avoir soulagé le peuple en lui distribuant et ses revenus et des emprunts faits sous son propre nom. Quelque temps après qu'une expérience si heureuse eut confirmé M. Turgot dans ses principes, le ministre des Finances consulta les intendants du royaume sur la législation du commerce des blés. Cette matière semblait être épuisée dans un grand nombre de bons ouvrages, mais dans 7 lettres très étendues, où M. Turgot crut devoir développer son avis, la question se trouve traitée d'après des principes plus approfondis et des vues plus vastes. Il y prouve que la liberté du commerce des grains est utile pour en augmenter la reproduction, en augmentant l'intérêt et les moyens d'étendre et de perfectionner la culture. Que le maintien et la liberté est encore le seul moyen, soit de faire naître un commerce constant, qui répare les disettes locales et prépare des ressources dans les années malheureuses, soit de faire baisser le prix moyen du blé et de diminuer les variations, objet plus important encore. Car c'est sur ce prix moyen des subsistances que se règle le prix des salaires et celui de la plupart des denrées. En sorte que, partout où ces variations ne sont pas très grandes, les salaires seront toujours suffisants au soutien du peuple et son travail ainsi que sa subsistance toujours assurée. Il montre enfin que la liberté du commerce des grains est également utile aux propriétaires, aux cultivateurs, aux consommateurs, aux salariés. Que plus une denrée est nécessaire, plus son commerce doit être libre. Et que les lois prohibitives, injustes envers ceux contre qui on les a faites, loin d'être excusées par la nécessité ou même par l'utilité, sont nuisibles et funestes à ceux dont l'intérêt en a été le prétexte. Il rassure contre la crainte des effets d'une liberté absolue en faisant voir que les désordres, les troubles, les séditions, la famine sont l'ouvrage de ces mêmes lois établies pour les prévenir, que ces lois sont la seule cause de la durée des disettes réelles, la seule cause du défaut de secours du commerce, la seule origine des préjugés, des terreurs et des violences du peuple. Malheureusement, trois de ces lettres n'existent plus, mais celles qui restent, en excitant de justes regrets, forment cependant un monument précieux qui peut-être sera un jour le salut du peuple, lorsque le temps, qui éteint les préventions de la haine personnelle et de l'esprit du parti, aura donné au nom de M. Turgot l'autorité due à son génie et à ses vertus. Ces lettres furent composées en 3 semaines, pendant une tournée de M. Turgot dans son intendance. Quelques-unes ont été écrites dans une seule soirée, au milieu de l'expédition de tous les détails de sa place, dont aucun n'était négligé. Et parmi les ouvrages qu'il a laissés, c'est un de ceux où l'on peut observer le mieux la netteté de ses idées, la méthode dont il avait contracté l'habitude, la facilité et la profondeur de son esprit. Le ministre, à qui cet avis fut adressé, loua M. Turgot et fit des lois prohibitives. Malheureusement, dans les discussions politiques, on juge moins avec sa raison qu'avec son caractère et avec son âme. Tous les esprits pourraient voir la même vérité, mais tous les caractères n'osent pas la mettre en pratique. Dès lors, on cherche à ne pas croire ce qu'on n'a pas envie de faire, et toute opinion qui exige qu'en l'adoptant, on se dévoue à braver les préjugés et les cabales et à préférer le bien public à sa fortune, ne peut être adoptée que par des hommes qui aient du courage et de la vertu. M. Turgot eut encore une occasion de déployer son zèle pour la liberté du commerce, ou plutôt pour la justice, qui prescrit de laisser à chacun le libre exercice de sa propriété légitime. Car la liberté du commerce a un motif plus noble que celui de son utilité, quelque étendue qu'elle puisse être. On sait qu'en France, le prêt d'argent remboursable à une époque fixée avec un intérêt quel qu'il soit, et tout prêt à un intérêt au-dessus de 5%, est traité par la loi comme une convention illégitime et même comme un délit. Cependant, le commerce ne peut exister sans des prêts remboursables à temps, dont l'intérêt soit fixé librement par une convention. Cette liberté est nécessaire parce que l'intérêt se règle naturellement sur l'étendue des profits de chaque commerce, sur les risques auxquels ce commerce est exposé, sur le plus ou moins de confiance qu'on doit avoir aux négociants qui empruntent. Pour concilier la loi civile avec la nécessité, on a imaginé de laisser dormir la loi en se réservant de la réveiller au gré du préjugé, de la rumeur publique et du caprice de chaque juge. Mais il en résulte que les prêteurs, toujours exposés à la perte de leurs créances, au déshonneur attaché à des actions que la loi proscrit et même à des condamnations infamantes, s'en dédommagent en ne consentant à prêter qu'à un très haut intérêt. D'ailleurs, un seul procès intenté par un débiteur de mauvaise foi suffit, par l'effroi qu'il inspire, pour suspendre le commerce d'une ville, d'une province entière. C'est ce qui venait d'arriver à Angoulême en 1770. Les banqueroutiers avaient imaginé, pour éviter de justes condamnations, d'accuser d'usure leurs créanciers. Une foule de débiteurs peu délicats avaient suivi cet exemple et menaçaient leurs créanciers de les dénoncer s'ils ne se hâtaient pas de leur remettre les intérêts stipulés et quelquefois même une partie du capital. La rigueur des poursuites, la faveur que ces dénonciations obtenaient dans les tribunaux, avaient porté le désordre à son comble. Le commerce d'Angoulême allait être détruit. L'alarme avait gagné plusieurs places commerçantes et le gouvernement crut devoir consulter l'intendant de la province. L'avis qu'il envoya est un ouvrage complet sur les prêts à intérêt. La liberté des conditions dans les prêts est une conséquence naturelle de la propriété de l'argent. Et il ne faut que des lumières bien communes pour voir que si le prêteur peut quelquefois, en exigeant des conditions trop dures, manquer à l'humanité, il ne peut blesser ni la justice ni les lois en usant du droit légitime de disposer à son gré de ce qui est à lui. Mais si la question était bien simple en elle-même, l'ouvrage de M. Turgot n'en est que plus propre à faire connaître son esprit et son caractère. Il ne croyait pas s'abaisser en combattant sérieusement les opinions les plus absurdes lorsqu'il les regardait comme dangereuses. Il examine, dans son rapport au ministre, les préjugés de politique, de jurisprudence, de théologie, qui ont donné naissance aux lois sur ce qu'on appelle usure, en fait voir l'origine et les progrès, et au lieu de se contenter de les accabler sous le poids de principes fondés sur la justice et sur la vérité, il daigne encore montrer que quand même on avilirait sa raison jusqu'à décider, d'après la théologie, une question de jurisprudence et de morale, les préjugés sur l'usure devraient encore être rejetés parce qu'ils ne sont appuyés que sur une fausse interprétation des autorités auxquelles ils doivent leur origine et leur empire. Il donne, dans ce même traité, une notion très nette et en même temps très neuve de l'intérêt légal, qui n'est et ne doit être qu'un prix moyen de l'intérêt, formé comme celui d'une denrée, d'après l'observation. Ainsi, la loi ne doit l'employer que de la même manière, c'est-à-dire pour fixer un prix lorsqu'il ne l'a pas été ou qu'il n'a pu l'être par des conventions particulières. Les occupations de M. Turgot ne l'avaient point empêché, nous ne disons pas de méditer ou d'ajouter à ses lumières, ce besoin est trop impérieux pour le génie de la trempe du sien, mais de composer quelques ouvrages. Nous ne citerons qu'un essai sur la formation de la richesse, ouvrage précieux, par une analyse fine et profonde, par la simplicité des principes et l'étendue des résultats, où l'on est conduit, par un enchaînement de vérités claires épuisées dans la nature, à la solution des problèmes les plus importants de l'économie politique. On peut même regarder cet essai comme le germe du traité sur la richesse des nations du célèbre Smith, ouvrage malheureusement encore trop peu connu en Europe pour le bonheur des peuples, et à l'auteur duquel on ne peut reprocher que d'avoir trop peu compté, à quelques égards, sur la force irrésistible de la raison et de la vérité. Nous citerons encore un ouvrage sur les mines et les carrières, ou les lois qui doivent en régler l'exploitation et en distribuer la propriété sont déduites des principes de la justice naturelle et réduites à un petit nombre de règles générales et simples. On est étonné de voir que des lois qui statuent sur un objet soumis jusqu'ici chez toutes les nations à des principes arbitraires d'utilité et de convenance puissent être des conséquences si claires des principes les plus généraux et les plus certains du droit naturel. Mais, comme nous le dirons ailleurs, M. Turgot était parvenu à voir qu'il en était de même du système des lois civiles et qu'on pourrait le déduire en entier de ces mêmes principes. Temps de travail. Un amour de la justice accompagné d'une bonté toujours compatissante. Un caractère incapable de céder à la séduction ou à la crainte. Un zèle du bien public aussi dégagé de tout intérêt de gloire ou d'ambition que la nature humaine peut le permettre, avait mérité à M. Turgot les bénédictions du peuple de sa province, l'amitié et l'admiration d'un petit nombre d'hommes qui le connaissaient tout entier, et qui, pour me servir de l'expression de l'un d'eux, se félicitait d'être né dans le siècle qu'il avait produit. Enfin, les suffrages de tous les hommes éclairés, de tous ceux que le nom de la vertu n'effrayait pas, et à la mort de Louis XV, la voix publique, que celle de l'intérêt et de la crainte n'osait encore contredire, l'appelait aux premières places comme un homme qui joignait à toutes les lumières que l'étude peut procurer, l'expérience que donne l'habitude des affaires. Les ministres qui gouvernaient pendant les dernières années de ce long règne avaient effrayé la nation plutôt qu'ils ne l'avaient opprimée. On chercherait en vain dans l'histoire de leur administration des lois semblables à celles qui ont été faites dans des temps que l'ignorance regrette encore et par des hommes auxquels on prodiguait dans cette même époque des louanges ridiculement exagérées. Mais le gouvernement, en affectant de braver l'opinion, l'avait armé contre lui. On éprouvait les maux de l'anarchie et l'on croyait sentir ceux du despotisme. Les finances étaient en désordre et on croyait ce désordre irréparable. Les ressources étaient réelles et grandes, mais le crédit était anéanti. La nation épouvantée, fatiguée d'abus accumulés, demandait un ministre réformateur. Elle voulait un homme dont le génie pût voir toute l'étendue du mal et en trouver le remède, dont le courage ne fût pas effrayé par les obstacles, dont la vertu demeurât incorruptible. Elle désignait M. Turgot. Sa voix fut écoutée et il fut nommé d'abord ministre de la Marine.